Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est dans la rue que les opposants à la réforme des retraites veulent se faire entendre aujourd'hui. Mobilisation nationale interprofessionnelle. Elle devrait être forte chez les enseignants, vous l'entendrez.
Nous nous pencherons ensuite sur les conséquences qu'a ce conflit sur le couple exécutif. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont-ils sur la même longueur d'onde? Nous poserons la question.
Carlos Ghosn s'en prend publiquement à l'alliance automobile Renault-Nissan. Elle n'existe plus, selon l'ancien patron. Nous avons interrogé un expert à ce propos.
Mais puis dans ce journal aussi, nous irons à Washington, où les élus du Congrès critiquent l'action de Donald Trump face à l'Iran. Ils ne sont pas consultés par le président.
En Grande-Bretagne, en revanche, ce sont bien les parlementaires qui doivent s'exprimer sur le Brexit. Ils vont valider l'accord avec Bruxelles. Et revoilà donc les slogans, pancartes et banderoles dans les rues un peu partout en France. C'est aujourd'hui la 4e grande journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Une journée à l'appel notamment de la CGT de Force Ouvrière, FSU et Solidaire. Ces syndicats-là demandent le retrait du projet de réforme pour engager ensuite de nouvelles discussions. Seront notamment mobilisés aujourd'hui les enseignants. Damien Mestre a rencontré des professeurs grévistes dans le Val-d'Oise, à Gonesse, au lycée René Cassin.
Dans cet établissement de la région parisienne, une partie des enseignants est déjà en grève depuis le début de la semaine. Un mouvement reconductible jusqu'au retrait de la réforme, assure-t-il. Il faut dire qu'ici, les négociations en cours intéressent assez peu. Marc Audoux, professeur d'histoire-géographie, refuse tout compromis.
Les gens qui sont engagés dans ce mouvement, ils sont pour le retrait complet de cette réforme. Et c'est pas que le problème de l'âge pivot, ça va bien au-delà. On est contre la retraite par points et on n'a pas envie de se laisser embobiner ou amener dans cette possibilité d'un compromis présenté comme un compromis du retrait de l'âge pivot contre l'arrêt du mouvement.
Un des exemples que les grévistes citent volontiers, c'est celui des danseurs de l'Opéra de Paris. Ces derniers ont décidé de continuer le mouvement même quand le gouvernement leur a proposé que la réforme ne s'applique qu'aux prochaines recrues.
Tout ce qui est fait pour nous diviser, en fait, c'est justement fait pour tous nous faire reculer, en fait, corporation par corporation, génération par génération. Le gouvernement, c'est peut-être sa façon de nous percevoir. Il considère que nous, les salariés, on est comme ça, on peut être achetés d'un côté, les uns contre les autres, et ben non.
Si la colère est si forte, c'est aussi qu'elle dépasse largement le cadre des retraites. Parcoursup, réforme du baccalauréat, stagnation des salaires, les frustrations s'accumulent, selon Mathilde Dubinsky, professeure de français.
Moi j'ai 20 ans de carrière, toutes les réformes que moi j'ai subies, et j'utilise ce terme, n'ont fait que dégrader mes conditions de travail et n'ont fait que, altérer la qualité de mon enseignement.
Mais s'ils restent déterminés, tous le reconnaissent, la mobilisation d'aujourd'hui pourrait bien être décisive dans la poursuite du mouvement.
Dans le primaire, la FSU prévoit ainsi aujourd'hui 40% de grévistes. La mobilisation sera forte en Ile-de-France, notamment à Paris où une école sur 6 est fermée aujourd'hui. Notez que c'est aussi en région parisienne que les transports sont fortement perturbés. À la RATP, seules 2 lignes automatiques vont circuler normalement. Les autres ne rouleront qu'aux heures de pointe. Trafic perturbé également dans les RER. Le pass Navigo sera remboursé aux abonnés pour le mois de décembre. À la SNCF, 60% des TGV et 40% des TER circuleront aujourd'hui. Et face à cette mobilisation, le gouvernement, lui, ne cède pas, mais il accepte toutefois des discussions cette semaine, notamment sur le financement du futur système de retraite. Rien, en revanche, sur l'âge pivot pour le moment. On est encore loin d'un accord, disait hier le chef de file de la CFDT, Laurent Berger. Et au sommet de l'État, le blocage actuel serait d'ailleurs en train de créer quelques remous, Rosalie Lafarge.
Faux, archi-faux, il n'y a aucun problème entre le Premier ministre et le Président, balait l'entourage d'Édouard Philippe. Sauf que quand même, l'âge pivot a 64 ans. Au départ, Emmanuel Macron n'en voulait pas, en tout cas pas dans la présentation de la réforme, selon ses proches. Il s'est laissé convaincre par le Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est l'un des principaux points de blocage. Et c'est surtout toujours une ligne rouge pour la CFDT, pourtant prête à porter le reste du texte. Or, le Président l'a dit le 31 décembre, il veut un compromis rapide, idéalement avant la présentation de la réforme en Conseil des ministres le 24 janvier. Et c'est bien sur cet âge pivot que le compromis rapide semble jouable. Laurent Berger est d'accord pour parler du financement du futur système, mais de façon séparée, décalée dans le temps. Pourquoi pas, dit l'Élysée, c'est une opportunité que le Premier ministre doit saisir, glisse un proche du Président. Parce qu'on ne peut pas réformer seul contre tous, enchaîne un macroniste. Édouard Philippe ne peut pas rester arc-bouté sur son âge pivot, abonde un autre. Mais il ne se lève pas le matin en se disant « âge pivot ». pivot, H-pivot, corrige un haut placé à Matignon. Il est simplement persuadé qu'il faut assurer l'équilibre financier du futur système, qu'on ne peut pas donner les bonnes nouvelles maintenant et les mauvaises plus tard, comme ça se fait depuis 40 ans, et qu'il n'y a pour l'instant pas de meilleure solution que cet H-pivot. Mais Édouard Philippe n'est pas fermé à la proposition de Laurent Berger d'une conférence sur le financement. La preuve, insiste ce proche du Premier ministre, il reçoit les organisations demain à Matignon pour en parler.
Autour de cette réforme des retraites et du conflit qui va avec, il y a donc différentes logiques qui s'affrontent. Nous y reviendrons plus longuement avec Stéphane Robert pour le billet politique après ce journal. Car ce matin, Frédéric Saïs est à mes côtés dans ce journal. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
À quelques mois des élections municipales, vous êtes allé à Bordeaux, qui n'a connu que deux maires depuis l'après-guerre, c'est peu. L'enjeu est la continuité après le départ d'Alain Juppé, resté près de 22 ans au pouvoir dans la ville. Alors les électeurs choisiront-ils son successeur qui s'appelle Nicolas Florian ? Frédéric, la campagne à Bordeaux pourrait se résumer par cette question, stop ou encore ?
Oui, habituellement le suspense n'est pas très grand à Bordeaux, c'est à chaque fois la droite qui l'emporte avec Jacques Chaban-Delmas, puis avec Alain Juppé. Alors le dégagisme dont on a beaucoup parlé à l'échelle nationale va-t-il cette fois s'appliquer à la cité bordelaise ? Nicolas Florian ne l'espère pas, il est soutenu par Alain Juppé et le Modem. Cet ancien adjoint revendique le bon bilan de la municipalité sortante et il n'est pas le seul. Plus de trois quarts des Bordelais jugent ce bilan positif selon les sondages. Nicolas Florian a pris ses distances avec son parti d'origine, les Républicains, et il tente de combler maintenant son déficit de notoriété par rapport aux grandes figures nationales qui ont jusqu'ici occupé le Palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux. Mais au candidat juppéiste, il faut ajouter un candidat macroniste, Thomas Cazenave, promet lui le renouveau, et même si le logo de La République En Marche est très discret sur ses tracts, il assume sa proximité avec Emmanuel Macron et son réseau dans l'appareil d'État qui, selon lui, l'aidera à débloquer des dossiers. Est-ce que cela suffira à faire vaciller les habitudes électorales, disons un certain conservatisme? Depuis l'après-guerre, il n'y a jamais eu de deuxième tour à Bordeaux.
Et la situation là-bas est aussi très intéressante à gauche, Frédéric, avec un rassemblement derrière les écologistes.
Oui, pour la première fois, ce sont les écologistes en chef de file et le Parti Socialiste qui jouent les renforts. D'habitude, c'était l'inverse. Cela montre bien qu'un changement de rapport de force se joue à gauche en ce moment, comme le reconnaît Emmanuelle Ajon, conseillère municipale socialiste.
Ça montre un changement de rapport de force, oui, alors peut-être momentané, et puis un changement d'époque. C'est aussi un choix, j'allais dire, de tendance. En politique, je crois qu'il y a, comme dans la mode, des tendances. Et aujourd'hui, la tendance est vraiment versus écologique. Peut-être parce qu'on l'a jamais essayé, donc on y croit plus.
Cette coalition écolo-PS Parti communiste, qui n'inclut pas les insoumis, est créditée de 30% dans les sondages, contre 33% à Nicolas Florian, le juppéiste, et 16% pour le macroniste Thomas Cazenave. Quant au Rassemblement national, il ne dépasse pas les 7% d'intention de vote.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Vous avez aussi réalisé pour ce matin un reportage sur le prix de l'immobilier à Bordeaux, au cœur de cette campagne des municipales. Il est à retrouver sur franceculture.fr. Le jeudi des municipales se poursuivra à la mi-journée sur France Culture avec Vincent Tibéry, chercheur à Sciences Po Bordeaux, invité du journal de midi et demi. Nicolas Sarkozy sera bientôt devant la justice. L'ancien président de la République va être jugé pour corruption en octobre prochain dans l'affaire dite des écoutes. Il est soupçonné d'avoir en 2014 tenté d'obtenir des informations secrètes auprès d'un haut magistrat par l'intermédiaire de son avocat. Des informations en marge de l'affaire Bettencourt en échange a priori d'une aide pour un poste.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Carlos Ghosn se dit victime d'un complot qu'il a arraché à sa famille.
L'ancien patron de Renault-Nissan tenait hier une conférence de presse à Beyrouth, la première depuis sa fuite il y a 10 jours du Japon vers le Liban. Face aux médias, Carlos Ghosn, qui est accusé de malversation financière, a également accusé Nissan d'être à l'origine de son arrestation. Il a taclé l'actuelle direction de l'Alliance.
Ils ont dit, on veut tourner la page Ghosn. Eh ben, ils ont réussi. Ils ont tourné la page Ghosn. Ils ont tourné la page Ghosn parce qu'il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance des profits. Il n'y a plus de ligne stratégique. Il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'alliance. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une mascarade d'alliance qui, avec toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, n'ira pas très loin.
Plus de croissance, plus de lignes stratégiques chez Renault-Nissan. Carlos Ghosn exagère, selon Bernard Julian, maître de conférence à l'université de Bordeaux et spécialiste du secteur automobile. Il argumente point par point.
Un, on repart sur des bases réalistes et au lieu de feindre que les coopérations existent, on se demande quelles sont celles qui marchent vraiment, quelles sont celles qui marchent moins bien. Deux, on renonce à la fusion, ce qui est plutôt un bon point, je pense que même Ghosn pourrait le reconnaître. Et puis trois, on a à la tête de Nissan des gens qui sont plutôt favorables à l'alliance et on a à la tête de Renault des gens qui y croient également. On a un Jean-Dominique Senard qui a compris que c'était plutôt l'alliance qui était l'avenir de Renault plutôt que la fuite en avant avec une alliance avec FCA ou un autre. Et par conséquent, on a quand même une détermination à faire avancer cette affaire-là sur des bases réalistes qui me paraît plutôt plus saine que ce qui s'est passé depuis 12 ou 14 mois, mais aussi plus sain que ce qui pouvait se passer avant le départ de Ghosn en avant 2018.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. Le ton officiellement s'apaise entre les États-Unis et l'Iran. Dans un discours télévisé hier, Donald Trump s'est dit prêt à la paix avec Téhéran. Le président américain n'a d'ailleurs pas évoqué de riposte militaire après les tirs d'avant-hier en Irak contre des Américains. Soulagement au Congrès américain, même si les critiques à l'égard de Donald Trump restent nombreuses autour de l'action du président et de son administration, Loïc Loury.
Donald Trump a-t-il outrepassé ses prérogatives en faisant assassiner le général Soleimani? L'opération était-elle légale, nécessaire? Le président aurait-il dû consulter les élus? Le républicain John Kennedy, lui, ne se pose pas toutes ces questions.
Je crois que le président a fait preuve d'une retenue remarquable, mais il a fait ce qu'il avait à faire et je vais le répéter, je crois que Téhéran a reçu le message.
Pour calmer le jeu, toutefois, les secrétaires d'État et à la Défense organisaient un briefing, le pire auquel il m'était été donné d'assister, affirme un autre républicain. Mike Lee, preuve que les divisions ne sont pas que politiques.
C'est vraiment n'importe quoi, je pense que c'est inacceptable. Je ne sais pas à quoi ils pensaient. J'y suis allé avec l'espoir d'avoir des détails plutôt que leur justification factuelle, légale ou morale.
Chez les démocrates, on critique plus largement l'absence de stratégie à long terme, comme la sénatrice Amy Duckworth.
Tout va bien, voilà ce que Donald Trump a dit quelques heures seulement après qu'une douzaine de missiles ont visé deux bases américaines la nuit dernière. Il n'y a pas eu de victime hier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tragédie à l'avenir.
Et un vote doit avoir lieu aujourd'hui à la Chambre pour empêcher Donald Trump de faire la guerre à l'Iran, un texte qui n'a aucune chance ensuite de passer l'étape du Sénat.
Est-ce à cause des tensions en ce moment en Iran qu'un Boeing 737 ukrainien s'est écrasé hier près de Téhéran? Aucune des 176 personnes qui étaient à bord n'a survécu. Ce matin, l'Organisation de l'aviation civile iranienne explique que l'avion avait bien décollé de Téhéran, qu'il a ensuite fait demi-tour après un problème. Nous n'en savons pas plus pour le moment. Une formalité sur la route du Brexit. Le texte sur la sortie de l'Union européenne revient devant le Parlement britannique pour une seconde lecture, a priori sans embûche pour le Premier ministre Boris Johnson. Boris Johnson qui doit maintenant négocier le futur accord commercial entre Londres et Bruxelles. Négociation qu'il va falloir mener dans un temps record, Antoine Gignot.
Les discussions commencent le 1er février, elles doivent se terminer le 31 décembre et dans l'intervalle, il faut tout réinventer, adapter plus de 600 traités bilatéraux et multilatéraux, trouver un terrain d'entente sur les normes, les appellations contrôlées, les droits de douane et les contrôles, un travail titanesque, quasiment impossible, explique Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission.
We will make as much as we can.
Nous ferons tout ce que nous pourrons, nous irons aussi loin que nous pourrons. Mais la vérité, c'est que notre partenariat ne pourra pas être le même qu'avant. S'il n'y a pas d'extension de la période de transition au-delà de 2020, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on trouve un terrain d'entente dans tous les domaines de notre futur partenariat. Il faudra choisir les priorités.
Des priorités qui restent à définir. Ursula von der Leyen parle de commerce, de climat, de sécurité, de protection de données, mais affiche aussi la priorité de Bruxelles, préserver l'intégrité du marché unique et de l'union douanière. Du côté de Downing Street, le porte-parole de Boris Johnson affirme qu'il a confiance. Soyons positifs, renchérit le ministre du Brexit, Stephen Barclay, qui précise tout de même « nous allons nous préparer à toute éventualité ».
Antoine Gignot à propos des tractations politiques en Grande-Bretagne. L'actualité à Londres, c'est aussi pour certains cette décision. Le prince Harry et son épouse Meghan renoncent à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Le couple princier quitte Buckingham et sa pression médiatique pour l'Amérique du Nord. Les tabloïds, évidemment, s'en offusquent. Le temps en France ce jeudi, humide sur le nord du pays, des Pays de la Loire jusqu'à la Lorraine. Avant l'arrivée des pluies sur le sud, le soleil doit briller ce matin. Il fait 6 degrés à Lyon, 8 à Strasbourg, 9 degrés à Bordeaux, 10 sous le soleil de Marseille, 12 degrés sous les averses à Rennes, Lille et Paris.